Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Combien y a-t-il dans la salle d'auditeurs qui connaissent Frédéric Ozanam? Voilà. C'est bien en général que lorsque je donne des conférences, j'ai deux, trois personnes qui me disent qu'ils le connaissent. Et si je vais plus avant, que je vous dis, Frédéric Ozanam, vous le connaissez, pourquoi? À quel sujet? Vous allez me dire, je vous donne la réponse, vous allez me dire, parce qu'il a fondé la Société de Saint-Vincent de Paul. Mais Frédéric Ozanam, ce n'est pas que la Société de Saint-Vincent de Paul. Frédéric Ozanam est un garçon qui a présenté de très nombreuses facettes. Sa personnalité a été très riche. Et c'est cette personnalité que je vais essayer de vous faire découvrir. Je vais vous la faire découvrir car moi, il y a 45 ans que je suis rentré à la Société de Saint-Vincent de Paul. Et là, dans cette association, j'ai fait la connaissance, j'étais étudiant, et j'ai fait la connaissance d'un autre étudiant qui avait une vingtaine d'années. Et cet étudiant d'une vingtaine d'années a marqué profondément mon existence. Et cet étudiant est devenu un confident, un ami. Mais cet étudiant vivait au 19e siècle, et c'était le bienheureux Antoine Frédéric Ozanam. Et je vais donc vous conter l'histoire de Frédéric Ozanam, le prophète de la miséricorde. Alors, Frédéric Ozanam est né le 23 avril 1813 à Milan. Vous allez me dire, mais alors il était italien. Pas du tout. Le père d'Ozanam, Antoine, Jean-Antoine, le père d'Ozanam était hussard dans les armées napoléoniennes. Vous savez qu'à l'époque, le Milanais était français, puisqu'il avait été annexé par Napoléon, et le vice-roi qui gérait le Milanais était tout simplement Eugène de Beauharnais, le beau-fils de Napoléon, le fils de Joséphine, l'impératrice. Donc, le père d'Ozanam se trouve à Milan. Il quitte après l'armée, il retourne à Lyon. Lyon, c'était le pays d'origine de la famille Ozanam. À Lyon, il se marie. Il se marie avec une demoiselle qui s'appelait Marie Nantas. Marie Nantas, dont le père était soyeux. Il était soyeux et il demande à son gendre de participer à ses affaires. C'est ce qu'il va faire. Et il y a un membre de la famille, un beau-frère, qui a des problèmes financiers. Et le père d'Ozanam va donc aider son beau-frère à remonter un petit peu la pente. Mais il aide d'une façon tellement importante qu'il va se ruiner. Et donc le père d'Ozanam étant ruiné, va retourner à Milan, puisqu'il connaissait Milan, va retourner à Milan, et à Milan, il va ouvrir une petite école pour les fonctionnaires français qui étaient encore donc, dans le Milanais, pour les enfants des fonctionnaires français qui étaient dans le Milanais. Donc le père d'Ozanam ouvre cette petite école, et pendant ce temps, pendant que sa femme s'occupait de la petite école, lui va étudier la médecine à Pavie. Et à 37 ans, Ozanam, Jean-Antoine Ozanam va devenir médecin. Donc vous voyez tout le parcours. Il a été hussard, du hussard il a été, on pourrait dire, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, il retourne à Milan où il ouvre une école. Pendant ce temps, il fait ses études de médecine et il va participer aux hôpitaux, il va travailler dans les hôpitaux milanais. Alors ce qui va se passer, il va se passer que il y a la chute de l'Empire, 1815, et la famille Ozanam ne veut pas rester sous le joug de l'Autriche. Donc que font-ils? En 1816, ils quittent Milan et ils retournent à Lyon. Et donc notre petit Ozanam, notre petit Frédéric, je vais maintenant vous parler de lui, notre petit Frédéric qui naît donc le 23 avril 1813, va arriver dans la ville de Lyon à l'âge de 3 ans. Cette ville, il ne la quittera plus jusqu'à l'âge de 18 ans où il s'en ira faire des études supérieures à Paris. Un petit mot aussi sur le nom. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais Ozanam, ça fait un petit peu Ozana, ça fait un petit peu peut-être d'origine israélite. En effet, le père d'Ozanam, donc Jean-Antoine, tenait ce qu'on appelait le livre de famille. C'était un livre où il essayait de retracer un petit peu l'histoire de la famille Ozanam. Et il fait remonter les origines de la famille au 7e siècle. Au 7e siècle, il y aurait eu un certain Jérémie Ozanam qui vivait à Bouligneux. Bouligneux, c'est à côté de Trévoux, pas très loin de Lyon. Il vivait à Boulinu avec sa tribu. Il avait de nombreux enfants et il était d'origine d'un juif. C'était des juifs de Syrie qui étaient venus, qui avaient été donc déportés en Syrie et qui étaient ensuite venus en Europe. Ils étaient venus en Europe par un ancêtre qui était prêteur dans les armées de César. Mais tout ça, alors moi, je le prends un petit peu sur la pointe des pieds parce que je me dis, c'est peut-être un petit peu la légende dorée de la famille Ozanam. Donc le père, le patriarche, se trouve au 7e siècle dans la petite ville de Bouligneux. Et dans cette petite ville de Bouligneux va se présenter Saint Didier. Saint Didier qui est poursuivi par la reine Brunehaut. La fameuse reine Brunehaut, qui était une personne extrêmement cruelle, elle poursuivait elle voulait assassiner donc Saint Didier. Et Saint Didier est recueilli par la famille Ozanam, par le patriarche, et Saint Didier va baptiser le patriarche et sa tribu. Donc ça, c'est un petit peu, moi je pense que ça est un petit peu la légende dorée, mais c'était le père d'Ozanam qui a voulu faire remonter sa lignée à la plus haute antiquité. Revenons au petit Ozanam, notre petit Frédéric va se retrouver à Lyon. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il ne fréquentera pas l'école primaire. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant de constitution très chétive. Par exemple, à l'âge de 7 ans, Ozanam va contracter la fièvre typhoïde. Les médecins le trouvent pratiquement perdu. Il est pratiquement perdu. Il se demande s'il va s'échapper de cette fameuse fièvre. Et que fait sa famille ? Sa famille va lui donner va suspendre autour de son cou les reliques de l'apôtre du Vivarais. Et quelques jours après, Ozanam, c'est Don François Régis, quelques jours après, Ozanam va se réveiller. La maladie est terminée. Il n'a plus la fièvre typhoïde. Et dès qu'il se réveille, il va demander à ses parents, alors qu'il n'en avait jamais bu, un verre de bière. Il avait 7 ans. 7 ans, donc Ozanam a toujours été de santé très fragile. D'ailleurs, il écrira plus tard que la mort a toujours été sa vieille locataire. Puisqu'il faut savoir, je vous le dirai dans la suite, Ozanam va mourir à l'âge de 40 ans. Donc, vous voyez, la vie d'Ozanam est très courte. À l'âge de 10 ans, donc pendant la scolarité primaire, qu'il n'a pas faite en classe, mais à la maison, alors à la maison, il y avait. Ozanam était le cinquième d'une fratrie de 14. Sur le 14, il n'en restait plus que 3. Il est resté donc Frédéric, son frère Alphonse, qui deviendra prêtre, et le petit frère qui avait 12 ans de moins que Frédéric, Charles, qui deviendra médecin. Et d'ailleurs, tous les descendants de la famille Ozanam, qui sont actuellement, puisque nous avons encore des Ozanam en France, et notamment nous avons le conservateur de la bibliothèque du centre Le Mistral à Marseille, qui est un Ozanam, hein, et donc ils descendent du frère médecin, du petit frère Charles, car Ozanam n'a eu qu'une seule fille, je vous en parlerai un peu plus tard, la petite Marie. Dont l'enseignement primaire va lui être dispensé par son frère, son père et sa sœur. Il y a une sœur, une grande sœur, qui s'appelle Elisabeth, qui va mourir à l'âge de 18 ans. Ça sera aussi un drame pour le petit Ozanam qui perd sa sœur, qu'il aimait énormément. Donc vous voyez que cette famille a été marquée par le deuil, puisque de 14 enfants, il n'en reste plus que 3. À partir de l'âge de 10 ans, Ozanam rentre au collège. Au collège, ça sera le lycée Royal, lycée royal à Lyon, qui porte aujourd'hui le nom de lycée Ampère. Parce que vous savez que le grand physicien Ampère est d'origine lyonnaise. Donc, il rentre au lycée royal de Lyon, et là, c'est un enfant très brillant. C'est un garçon extrêmement brillant. Ozanam, c'est sur le plan intellectuel, comme je vais vous le démontrer un peu plus tard, a été un homme extraordinaire. Donc c'est un garçon très, très érudit, un garçon très brillant. Et là, il va rencontrer un professeur de lettres qui s'appelle M. Leger. M. Leger va lui apprendre à la rigueur. Donc Ozanam est un garçon qui aura toujours l'enseignement de son professeur de lettres, M. Leger, et ça sera un homme de grande rigueur. Par exemple, lorsque plus tard, il va devenir professeur à la Sorbonne, il va aller voir sur place, avant de préparer son cours, il va aller voir sur place, puisqu'il était le professeur de littérature étrangère, où s'étaient vraiment déroulés les faits pour pouvoir les reporter à ses élèves, à ses étudiants. Donc il vérifiait sur place. Donc vous voyez, c'est un homme qui était d'une rigueur extrême. Ozanam, donc, arrive avec un bagage important sur le plan, sur le plan intellectuel, et à l'âge de 16 ans, il va se retrouver un petit peu confronté à un problème au niveau de la foi. Il sent qu'il va perdre la foi. Oui, c'est l'adolescence, la crise de l'adolescence. Il se trouve dans un milieu, le milieu de 1823. 29 est un milieu un petit peu le même milieu que nous trouvons à l'heure actuelle pour nos étudiants. Ils se retrouvent dans un milieu extrêmement déchristianisé, où la religion est critiquée, où on se moque d'elle, où les prêtres sont dévalorisés. Où on se retrouve un petit peu dans la situation où nous sommes à l'heure actuelle par certains côtés. Donc Ozanam va se retrouver avec ce problème au niveau de la foi. Mais il rencontre un professeur de philosophie qui était un homme extraordinaire qui s'appelle l'abbé Noirot. Alors retenez bien ce nom parce que l'abbé Noirot va suivre un petit peu la vie d'Ozanam jusqu'à sa mort. Donc l'abbé Noirot était professeur de philosophie et c'est un homme qui appliquait pour enseigner donc ses étudiants la méthode socratique, c'est-à-dire qu'il voulait que ce soit les étudiants qui par eux-mêmes arrivent à retrouver le concept. Et il était très attaché à Frédéric Ozanam, puisque Ozanam était l'un de ses meilleurs élèves, même peut-être le meilleur élève. Et donc, Ozanam lui fait part de son problème qu'il rencontre, ce problème de foi. Et il va lui donner des conseils. Et Ozanam va retrouver la foi. Mais il explique la situation qu'il a traversée au moment où il a traversé cette crise. Et je vais vous lire un petit passage d'une de ses lettres où il relate le problème qu'il avait rencontré à ce moment-là. Je connus toutes les horreurs de ces doutes qui rongent le cœur pendant le jour et qu'on trouve la nuit sur un chevet baigné de larmes. L'incertitude de ma destinée éternelle ne me laissait pas de repos. Je m'attachais avec désespoir aux dogmes sacrés et je croyais les sentir se briser sous ma main. C'est alors que l'enseignement d'un prêtre me sauva. Il mit dans mes pensées l'ordre et la lumière. Je crus désormais d'une foi assurée et touché d'un bienfait si rare, je promis à Dieu de vouer mes jours au service de la vérité qui me donnait la vie. C'était en 1800. 30, il a écrit cette lettre. Donc voilà, donc Ozanam se retrouve pacifié au niveau de sa foi. Et pour remercier le Seigneur de l'avoir pacifié au niveau de sa foi, que fait-il? Il s'engage à écrire un ouvrage qui sera l'ouvrage de sa vie, c'est-à-dire de démontrer la vérité du christianisme par rapport à toutes les autres religions. Donc à l'âge de 16 ans, Ozanam s'est mis à étudier toutes les religions du monde connu de l'époque. Ce qui a autorisé Ozanam à apprendre certaines langues. C'est la raison pour laquelle il a appris le sanskrit. Il avait 16 ans. Il a appris le sanskrit. Il a appris, bien entendu, l'hébreu pour pouvoir lire la Bible dans le texte. Ozanam lisait la Bible en hébreu tous les jours. Il a appris le grec. Ozanam connaissait 9 langues. Les langues mortes et les langues vivantes. Tout cela, Ozanam, dans sa prime jeunesse, puisque là, il avait 16 ans. Donc Ozanam s'est mis à étudier dans toutes les religions. Il a voulu écrire cet ouvrage. À l'âge de 16 ans, il se retrouve bachelier, ce qui est pas mal pour un jeune de 16 ans de se retrouver bachelier. Et il voulait faire des études supérieures, notamment des études supérieures de lettres. Mais son père, le docteur Ozanam, voulait en faire soit un avocat, soit un magistrat. Donc il voulait qu'il suive des études de droit. Mais Ozanam, à l'âge de 16 ans, à l'époque, à Lyon, il n'y avait pas d'école de droit. Donc il devait se rendre à Paris, donc à l'école de droit de Paris. Il n'y est pas, ses parents s'y sont opposés, compte tenu de son jeune âge, puisqu'il n'avait que 16 ans. Alors qu'a fait le père? Le père l'a mis dans une étude d'un avoué qui s'appelait Maître Coulet, un avoué lyonnais. Et là, chez Maître Coulet, il se retrouve encore dans un milieu. Ses collègues, là, les clercs d'avoué, étaient aussi religieux. Ils se moquaient de lui parce qu'il était croyant. Et Ozanam, qui était un garçon très timide, il faut savoir qu'Ozanam a toujours gardé une très grande timidité. Cette grande timidité, lorsqu'il devait défendre ses idées, disparaissait. Et donc, il a remis un petit peu les choses au point. Et ses condisciples, on pourrait dire, les autres clercs, l'ont respecté. Ont respecté la foi d'Ozanam. Ozanam a continué. Bon. Pendant ce temps, pendant qu'il était dans l'étude de Maître Coulet, sont venus à Lyon ce qu'on appelait les Saint-Simoniens. Vous savez, c'était le comte de Saint-Simon qui avait créé on pourrait dire, qui voulait supplanter le christianisme en créant une religion nouvelle, et également sur le plan économique, de mettre en place une théorie économique qui ouvrait un petit peu la porte au socialisme, etc. Et qui bafouait bien entendu l'Église et qui rejetait la religion. Donc Ozanam, que fait-il pendant qu'il est chez Maître Coulet? Il va dénoncer les Saint-Simoniens qui remplissaient des salles à Lyon jusqu'à 3 000 personnes qui venaient les écouter, donc le Saint-Simonisme, notamment au niveau des Camus à l'île Rousse, là-haut, à la Croix-Rousse. Donc Ozanam va écrire dans un journal qui s'appelait Le Précurseur, des articles contre le Saint-Simonisme. Et ces articles sont extrêmement bien étayés, ce qui fait que les Saint-Simoniens vont quitter Lyon sans. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient été pratiquement démasqués, donc ils vont quitter Lyon et il ne va pas y avoir de polémique. Et fort de tout cela, Ozanam, que va-t-il faire? Il va écrire un petit ouvrage qui sera le premier de sa carrière littéraire, qui va s'appeler Réflexion sur la doctrine de Saint-Simon. Et là, Ozanam, à l'époque, n'a pas encore 18 ans. Et là, dans 125 pages, il va démonter donc la théorie saint-simonienne. Tellement que sa théorie est très bien étayée, qu'il va recevoir les félicitations de Lamartine et de Chateaubriand. Vous voyez, à cette époque-là, à l'âge de 16 ans, entre 16 et 18 ans, vous voyez le genre de personnage qu'était déjà Frédéric Ozanam. À côté de tout cela, c'est un garçon qui a toujours eu comme vocation et comme attachement l'amitié. On peut dire qu'Ozanam, c'est le saint de l'amitié. Moi, je le considère comme le saint de l'amitié. Il a eu ses amitiés d'enfance. Amitiés d'enfance, ses amis d'enfance qui, plus tard, je vous en parlerai tout à l'heure, vont créer la Société de Saint-Vincent-de-Paul, seront les premiers membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, l'Allier, etc., Falconet, etc. Et Ozanam, donc, les a gardés jusqu'à sa mort. C'était donc un ami fidèle et l'amitié comptait beaucoup pour lui. Ozanam va donc passer son temps dans l'étude de Maître Coulet, arrive à l'âge de 18 ans. À 18 ans, il aura fait donc 2 ans il aura été 2 ans clerc d'un avoué. À l'âge de 18 ans, Ozanam va partir à Paris. Ses parents l'autorisent à aller à Paris étudier à la Sorbonne, notamment le droit. Ozanam arrive à Paris et que fait-il à Paris? Il s'inscrit en licence en droit et en licence en lettres. Et il mène de front les deux licences, lettres et droit, bon, voilà, tout en s'occupant d'un tas d'autres choses. Là, vous voyez le genre de personnage qu'était Frédéric Ozanam. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que c'est un garçon qui est méconnu et qui est vraiment un exemple, et pour la jeunesse et même pour le monde. Parce que vous verrez après tout ce que Ozanam a fait. Donc, Ozanam va donc rentrer à l'école de droit, en lettres, et là, il est logé dans une pension de famille, la pension Lecomte. La pension de famille, c'est si vous avez lu Balzac, vous avez lu peut-être La maison du chat qui pelote, et on vous décrit ces pensions de famille où il y avait une dizaine de personnes qui vivaient là, voilà, où on se rencontrait. Et Ozanam se retrouve donc là, dans un milieu aussi encore anticlérical, irreligieux, etc. On se moque d'Ozanam parce que Ozanam, le vendredi, fait maigre. Bon, Ozanam est un petit peu découragé par son entourage. Et son père lui avait dit d'aller présenter un petit peu ses respects au grand-père, parce que le père d'Ozanam connaissait donc le physicien Ampère qui habitait Paris. Donc que fait-il? Ozanam va le rencontre, demande un rendez-vous, il le rencontre, il lui explique, il vient le voir, il lui parle de son père, etc. Et il lui fait part aussi des difficultés qu'il a dans cette maison de famille, dans cette pension de famille. Donc que va-t-il faire Ampère? Le fils d'Ampère, qui s'appelait Jean-Jacques, était parti en Angleterre étudier. Et il avait sa chambre qui était vide. Donc Ampère, il lui dit, ben, si tu veux, avec la même somme que tu donnes à ta logeuse, tu me la donnes et moi tu viens chez moi. Et Ozanam est resté 3 ans chez Ampère, avec possibilité d'utiliser sa bibliothèque. Pendant ces heures creuses, comme Ozanam n'avait pas beaucoup, avait énormément de temps, vous voyez, comme en faisant son droit, ses lettres, etc., il avait encore le temps d'être rat de bibliothèque, de la bibliothèque de notre cher Ampère. Et là, en plus, chez Ampère, Ampère recevait tout ce qu'il y avait d'important dans le monde scientifique de l'époque. Donc tous les savants fréquentaient le salon d'Ampère, dont Ampère, aux Annales en même temps, a rencontré tous ces personnages. Lorsqu'il était étudiant donc à Paris, alors là nous sommes en 1833. En 1833, Frédéric Ozanam, il y a deux professeurs, le professeur, je vais reprendre son nom, le professeur Letron et le professeur Jouffroy, deux professeurs qui pendant leur cours à Sorbonne, dénigrer aussi encore la religion, le christianisme, c'était une époque épouvantable, une époque dès qu'on ouvrait la bouche, c'était pour critiquer la religion. Donc, et ça a choqué donc, le jeune Ozanam. Alors Ozanam, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une lettre à ses professeurs qui étaient en chaire, en leur disant, signée par d'autres collègues, en leur disant qu'ils étaient outrés par les propos qu'ils tenaient. Et tant et si bien que les deux professeurs ont fait leurs excuses à l'assemblée des étudiants, ils étaient à peu près 700 ou 800, les 800 étudiants qui étaient dans l'amphithéâtre, les deux professeurs ont fait des excuses en disant que s'ils avaient choqué la foi de certains, ils s'en excusaient, mais ils disaient que 5 ans plus tard, auparavant, c'était plutôt le contraire, c'est lorsqu'on attaquait la religion que les gens étaient satisfaits, les jeunes étudiants de l'époque. Donc voilà, donc Ozanam, vous voyez, malgré sa timidité, se lance et lorsqu'il y a quelque chose qu'il faut dénoncer, il le dénonce. Et donc là, il est outré et il le dénonce. Entre-temps, Ozanam, toujours en étant en 1833, faisait partie d'un petit comité qu'on appelait la conférence, écoutez bien, parce que ça va vous dire quelque chose, la conférence d'histoire. Cette conférence d'histoire était une petite société culturelle de forte d'environ une quinzaine de membres, qui se réunissait une fois par semaine. En plus de tout le reste, Ozanam avait la possibilité de se réunir une fois par semaine. Et là, on discutait d'histoire, de géographie, de politique, de religion, etc. Et un jour, à une de ces réunions, on parlait du christianisme, justement, et il y avait dans l'assistance, parmi les 15, un jeune étudiant qui était saint-simonien. Et il commence à leur dire, à ces jeunes catholiques, « C'est très bien, vous, les catholiques, vous avez fait, l'Église a fait beaucoup de choses autrefois, au Moyen-Âge, par exemple, avec les institutions charitables, avec les hôpitaux, avec l'enseignement, les universités, etc. Mais aujourd'hui, en 1833, montrez-nous vos œuvres. » Et ça a piqué au vif le jeune Frédéric. Et Frédéric a dit à ses collègues, « Ne parlons pas tant de charité, faisons-la. » Et c'est comme ça qu'est née la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Par rapport à il a été piqué au vif par ce Saint-Simonien, et donc il a constitué un petit groupe, et il a fondé donc la Société de Saint-Vincent-de-Paul le 23 avril 1833, il venait d'avoir 20 ans, le jour de ses 20 ans. Ils étaient au nombre de 7. Et ne connaissant pas de personnes en difficulté, c'était parce que c'était des jeunes qui sortaient d'un milieu assez bourgeois, même bourgeois, puisque bon, Ozanam, son père était médecin, mais comme le père avait quand même des enfants et que la maman, bien entendu, ne travaillait pas, Ozanam a toujours dit qu'il avait vécu à la limite de l'aisance et de la pauvreté. C'est-à-dire, à la maison, on n'était pas extrêmement riche. Donc, Ozanam, petite histoire, Ozanam n'y voyait pas trop bien. Il avait besoin de lunettes. Et bien, un jour, pour Noël, il a dit à ses parents, « Ne m'achetez rien, mais achetez-moi une paire de lunettes. » Il n'avait qu'une seule redingote, donc la maman reprisait la redingote, etc. Donc vous voyez, Ozanam a connu aussi, pas la misère, mais une situation assez difficile sur le plan matériel. Donc ne connaissant pas de pauvres, que font-ils? Ils vont rencontrer une religieuse de Saint-Vincent-de-Paul qui s'appelle Sœur Rosalie Randu. Peut-être que ça ne vous dit rien. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, ah, voilà, la fameuse Sœur Rosalie de la rue Mouffetard. Donc, Rosalie Randu habitait à la rue Mouffetard à Paris, et la rue Mouffetard de Paris, à Paris à l'époque, n'était pas ce quartier actuellement où il y a beaucoup de bobos actuellement à la rue Mouffetard. À l'époque, c'était le quartier qui vraiment où la misère, la prostitution, l'alcoolisme, la tuberculose, toutes les enfants maltraités, les voyous, les assassins, tout le monde était rassemblés dans le quartier Mouffetard, pas très loin de Saint-Étienne-du-Mont. Voilà. Et donc, ils vont voir la petite Sœur Rosalie, et Sœur Rosalie va leur donner des adresses à aller visiter. Et les jeunes vont aller visiter les premières personnes en difficulté ont été données par Sœur Rosalie Randu. Sans Rosalie Rendu, c'était au mois de mai, je vais faire un petit cours de 4 heures justement sur ce Rosalie Rendu à Marseille pour faire reconnaître aussi du grand public cette personne qui est peu connue, voilà, et qui est vraiment une sainte. À ce moment-là aussi, nos petits jeunes se sont rendus compte qu'il aurait fallu qu'il y ait un enseignement religieux pour le plus grand nombre. Donc, que vont-ils faire? Ils vont essayer de faire organiser des conférences. Et alors, pour organiser des conférences officielles, une conférence officielle sur le plan de la liturgie et sur le plan religieux, ils vont voir tout simplement. Je vous ai déjà dit c'était un garçon timide. Ils vont voir tout simplement l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen. Monseigneur de Quélen, il reçoit le petit groupe de jeunes, et les petits jeunes, ils leur disent, voilà, Monseigneur, il faudrait que peut-être que vous mettiez en place des conférences pour justement que le plus grand nombre reçoive un enseignement religieux de qualité. Bon. Monseigneur de Quélen, il bénit les petits jeunes, il leur dit, c'est très bien. Ils s'en vont, ça laisse lettre morte. Pendant ce temps, il y avait au collège Stanislas un professeur. Ce professeur s'appelait Lacordaire. Et Lacordaire, que va-t-il faire? Il va donner des conférences au moment du carême à Stanislas. Et à Stanislas, il y avait tellement de monde que les personnes grimpaient aux fenêtres pour écouter Lacordaire. Il y avait des salles qui étaient combles. Donc, Ozanam retourne l'année d'après voir Monseigneur de Quélen en disant, voilà, vous avez vu ce qui se passe à Stanislas, vous voyez, ça serait pas mal que vous fassiez de même à Notre-Dame de Paris. Alors à la fin, il finit par dire, ben, pourquoi pas, mais Monseigneur de Quélen ne prend pas Lacordaire, il va prendre 7 prêtres du diocèse de Paris qu'il va envoyer pour faire les premières conférences de carême. Or, ces premières conférences de carême, à Notre-Dame, il n'y a pratiquement personne, alors que de l'autre côté, à Stanislas, c'est archi-comble. Donc l'année d'après, Monseigneur de Quélen, que va-t-il faire? Il va envoyer Lacordaire à Notre-Dame de Paris. Donc c'est pour vous dire qu'Ozanam a été aussi le fondateur des conférences de carême qui existent encore toujours à notre époque, au moment du carême. Donc vous voyez tout ce que Ozanam a mis en place. Ozanam mettra en place, aussi toujours à la même époque, va mettre en place, c'est au moment où la Belgique organise l'épiscopat belge, les universités catholiques. Et Ozanam va intervenir, justement, ici en France, en faisant des collectes auprès de ses condisciples, etc., pour financer, justement, ces universités catholiques. Donc vous voyez, Ozanam a été aussi un précurseur au niveau de l'enseignement catholique, puisque. Donc vous voyez toutes ces facettes d'Ozanam. Alors qu'Ozanam, on le cantonne parfois qu'à la société de Saint-Vincent-de-Paul, alors que pas du tout. Alors maintenant, nous allons voir un autre volet d'Ozanam. Ozanam, justement, en 1833, il passe sa deuxième année de droit, il a réussi, mais il n'a que la mention assez bien. Alors ça ne plaît pas du tout à son père, bon, il lui tire les oreilles. Mais bon, mais que va-t-il faire, le père? Bon, comme c'est une personne qui comprend, qui sait que son fils fait beaucoup de choses, que c'est un garçon éminemment intelligent. Donc, que va-t-il faire? Il va mener ses deux fils en Italie, puisque Madame Ozanam, mère, donc Marie Nantas, a eu une sœur qui habite Florence. Et Ozanam a toujours été très attiré par l'Italie, puisque c'est le lieu où il est né. Puis il est resté 3 ans. Et là, ils vont faire un tour, ils vont visiter les grandes villes, donc ça sera Florence, puis après ils vont descendre à Rome, et à Rome, ils vont au Vatican, et au Vatican, Ozanam va visiter la chambre des Raphaëls. Et dans la chambre des Raphaëls, je ne sais pas si vous l'avez visitée, il y a dans la chambre des Raphaëls une fresque où se trouvent des prélats, où se trouvent des évêques, où se trouvent des saints, et au milieu de ces prélats, de ces évêques et des saints, il y a un homme qui porte une couronne de laurier au milieu de tous ces personnages. Et Ozanam, il a été frappé par cet homme qui porte une couronne de laurier. Il se renseigne et il découvre que c'est Dante, le fameux Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie, le Florentin qui a été après banni et qui a terminé ses jours à Ravenne. Donc il est omnibulé par ce personnage de Dante, tant et si bien que Ozanam, sa thèse de lettres, va porter sur Dante et la philosophie italienne au XIIIe siècle. la même année, ils vont visiter Assise. Visitant Assise, bien entendu, ils retrouvent le poverello. Et bien entendu, Hosanna, mais omnibulé aussi par la personnalité du petit pauvre d'Assise. Que va-t-il faire plus tard, vers la fin de sa vie? Il va traduire les Fioretti de Saint-François de l'italien en français. Et c'est donc Hosanna qui a fait connaître à la France les Fioretti, puisqu'elles étaient en langue italienne. Et il faut savoir, alors là on le dit peu, mais il a été aidé dans la traduction par sa femme Amélie, dont je parlerai tout à l'heure, sa femme Amélie qui l'a aidé, qui était aussi une personne sur le plan intellectuel, qui avait un très bon niveau, qui l'a aidé à traduire les Fioretti. Donc voilà, Hosanna va, nous arrivons maintenant en 39, oui, en 36, et Hosanna à ce moment-là a ses deux licences de lettres et de droit. Les études à Paris sont terminées. Il continue à préparer aussi le doctorat. Donc, il va à ce moment-là rentrer à Lyon. Et à Lyon, son père va vouloir en faire un avocat. Lui, ça ne lui plaît pas. Dans une de ses lettres, il dit que la chicane, ça ne lui a jamais plu. Et qu'il n'y a rien de pire que d'aller traîner sa journée au palais. Parce que Hosanna avait toujours dans son idée les lettres. Les lettres, les lettres et l'enseignement. Et. Que va-t-il se passer? Il va se passer que il n'a pas beaucoup de causes, vu que c'était un petit peu l'avocat des pauvres, pas beaucoup de causes. Son père, en allant visiter un pauvre, parce que le père, Hosanna, c'était aussi le médecin des pauvres, il allait visiter les personnes les plus malheureuses sans les faire payer, il fait une chute dans un escalier à Lyon et il meurt. Donc Hosanna, à l'âge de 24 ans, il se retrouve orphelin de père, avec une mère qui est un petit peu dépressive. Il faut la comprendre, et un petit frère de 12 ans. Donc, il se retrouve chef de famille à l'âge de 24 ans. Alors, il continue ses plaidoiries. Il arrive aussi à devenir le rédacteur des annales de la propagation de la foi. Là aussi, vous voyez, Hosanna avec Pauline Jaricot, etc. Donc, il va rester 10 ans rédacteur des annales de la propagation de la foi, même lorsqu'il va retourner à Paris. Entre-temps, la Chambre de commerce de Lyon va ouvrir une chaire de droit commercial. Et on cherche un enseignant, qui choisit-on? On choisit Frédéric Hosanna. Et Hosanna, donc, va devenir professeur de droit commercial. C'est vraiment ce qu'il voulait, s'il voulait enseigner. Et c'est dans sa 24e leçon qu'Hosanna va mettre en place un petit peu l'origine du droit du travail et du droit social. Par exemple, c'est Hosanna est un des premiers qui va parler du SMIC, du salaire minimum. Il va également mettre en place la retraite. Il disait que ce n'était pas normal qu'une personne qui avait travaillé toute sa vie, arrivée à l'âge de la retraite, où il ne pourra plus travailler, se retrouve avec rien. Donc il va mettre en place les bases de la retraite. Il va mettre en place aussi les bases des allocations familiales, en disant c'est normal que des familles qui ont des enfants aient un salaire plus élevé que ceux qui n'en ont pas. Et ça sera vers les années 1935-36, un confrère de Saint-Vincent de Paul, qui était chef d'entreprise à Grenoble, qui a, pour son entreprise, mis en place les allocations familiales qui ont été ensuite reprises par l'État. Et c'est une idée aussi d'un membre de la société de Saint-Vincent de Paul, l'idée des allocations familiales. Il a parlé aussi du syndicalisme, mais pas un syndicalisme comme nous connaissons ici, c'est-à-dire un conflit entre le patron et les employés, pas du tout. Lui, il voulait que ce syndicalisme soit un petit peu comme le syndicalisme comme nous trouvons dans les pays du Nord, c'est-à-dire une entente préalable, que les deux parties se connaissent, que les deux parties discutent avant d'employer les grands moyens, on pourrait dire. Voilà. Donc vous voyez qu'Hosanna, ça a été un visionnaire sur tous ces plans, et notamment sur le droit social. Pendant ce temps, Hosanna va présenter sa thèse son doctorat, oui, son doctorat en droit. Il va présenter son doctorat en lettres. Il est reçu dans les deux. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est professeur donc à Lyon, il y a Edgar Quinet, qui était professeur de littérature à Lyon, qui postule pour être admis au Collège de France. Donc la chaire d'Edgar Quinet va se retrouver vacante. Et Hosanna pour ébriguer cette chaire. Donc ça lui ferait le droit social, le droit, la chambre de commerce qui le paierait là, peut-être quelques affaires sur le plan de, en étant avocat, et également cette chaire. Alors, mais alors pour avoir cette chaire, il faut passer l'agrégation. Alors l'agrégation, c'était un concours qui était tout à fait récent, puisque c'est Victor Cousin, qui était le ministre de l'Instruction publique, qui l'avait instauré. Il venait de l'instaurer. Victor Cousin, qui vivait au temps d'Ozanam, qui connaissait Ozanam. Et donc Ozanam se dit, bon, il va falloir que je passe ce concours. Il va voir Victor Cousin, et Victor Cousin l'incite à passer ce concours qu'il est en train de mettre en place. Aucun concours n'avait été encore organisé, c'est le premier, et Ozanam va présenter le premier concours d'agrégation. Ils étaient 6 candidats, il va sortir premier. Alors, je ne sais pas si j'ai ici les questions qui lui ont été posées, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Les candidats devaient subir 11 épreuves, 2 dissertations dont l'une en latin, 3 explications de texte, grec, latin, français, 4 commentaires d'auteurs étrangers, allemand, anglais, italien, espagnol, 2 leçons tirées au sort parmi les sujets divers. Et malgré tout cela, il s'est mis pendant 3 mois à plancher sur ces questions qu'on allait pouvoir lui poser, et il est sorti premier. Donc, et alors, pendant ce temps, pendant qu'il y a la chaire d'Edgar Quinet qui est vacante, il y a une autre chaire qui se libère, qui est plus prestigieuse, c'est à la Sorbonne, c'est le professeur Fauriel. Professeur Fauriel qui a été le premier enseignant de littérature étrangère en France, parce que la chaire de littérature étrangère à la Sorbonne n'existait pas avant Fauriel. On l'a créé, Victor Cousin l'avait créé spécialement pour le professeur Fauriel. Donc Fauriel, qui pour la petite histoire a été le secrétaire de Talleyrand. Fauriel, qui n'était pas du tout chrétien, le Fauriel. Donc Fauriel voulait un suppléant, parce qu'il en avait un peu assez d'enseigner à plein temps, et il y a cette chaire qui est actuellement vacante, et où quelqu'un pourrait donc l'utiliser. Donc que va-t-il faire Ozanam? Il va dire, est-ce que je prends Edgar Quinet, je reste à Lyon avec les cours que je donne à la chambre de commerce, est-ce que ma profession d'avocat, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, sa mère meurt. Donc, à l'âge de 26 ans, Ozanam se retrouve orphelin de père et de mère avec son petit frère sur les bras, à élever. Et alors là, il ne sait plus, il est un petit peu désemparé, et il cherche sa vocation, notamment sa vocation sur le plan humain. Alors, que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va rester laïque au service de l'Église? Est-ce qu'il va rentrer pour devenir prêtre? Ou est-ce qu'il va se marier? Se marier, ça ne lui disait pas grand-chose. Il disait que le mariage était tout simplement un égoïsme à deux. Le mariage est un égoïsme à deux. Et je n'ai pas mal non plus, je vais vous dire. En vérité, j'envie le sort de ceux qui se dévouent à Dieu et à l'humanité. Le mariage m'inspire d'incroyables répugnances. Il me semble qu'il y ait une sorte d'abdication dans l'union conjugale. C'est un égoïsme à deux. Mais, donc il réfléchit, Lacordaire, pendant ce temps qu'il venait de remettre l'ordre des Dominicains en France, qui venait rétablir l'ordre des Dominicains, qui était un ami d'Ozanam, aurait voulu qu'Ozanam, compte tenu de son élocution, de son éloquence, qu'Ozanam devienne dominicain. Donc il lui lançait un petit peu des jalons pour qu'il devienne dominicain. Ozanam réfléchissait, parce que Ozanam a toujours été un homme de réflexion. Avant de prendre une décision, il réfléchissait. Toujours cette rigueur dont je vous parlais tout à l'heure. Il réfléchit. Mais nous avons, on a oublié je vais vous en parler encore une fois, le fameux abbé Noirot, qui était l'ami de la famille. Alors l'abbé Noirot, on pourrait dire qu'à ce moment-là, l'abbé Noirot a été, je ne dirais pas, parce que ça serait un blasphème, un petit entremetteur peut-être. Il y avait à Lyon le recteur qui s'appelait M. Soulacroix, qui était le recteur de Lyon. M. Soulacroix avait des enfants, avait deux enfants. Et Monsieur Soulacroix donnait, en tant que recteur, donnait des réceptions. Et un jour, l'abbé Noirot, il dit aux Anames connaissaient le recteur Soulacroix, puisqu'il était, notamment, il enseignait. Et aux Anames, l'abbé Noirot demanda aux Anames, lui dit, Frédéric, il faudrait peut-être que tu viennes à une des soirées de Monsieur Soulacroix. Je te présenterai les uns les autres. Bon, alors, il finit, bon, parce qu'il était un peu bourru, il n'aimait pas les mondanités aux Anames. Il y va tout de même, il y va tout de même, il rentre cela. Il y a la soirée qui se déroule, etc. Puis au bout d'un moment, il y a une porte qui s'ouvre. Cette petite porte, à l'intérieur de la porte, il y a une jeune fille. Et cette jeune fille est en train de soigner son frère qui était paralysé. Et cette jeune fille, c'était la fille du recteur Soulacroix. C'était Amélie Soulacroix. Et Frédéric Ozanam tombe amoureux de façon éperdue sur cette fille qu'il ne connaissait, qu'il venait à peine de voir. Donc c'était elle qui devait être donc son épouse. Et c'est ce qui va se passer. 3 mois après, il y a les fiançailles. Entre-temps, Ozanam a eu sa chaire de littérature comparée à la Sorbonne. Il demande à sa fiancée si elle ne sera pas déçue d'avoir un salaire très minimum, alors que s'il restait à Lyon, il aurait tous ses avantages, quoi, les avantages dont je vous ai déjà parlé. Elle dit non, elle dit que ça ne lui fait rien de vivre plus modestement. Et Ozanam a donné la chaire de... Il est le suppléant de Fauriel. Pendant, il avait 28 ans. Il rentre donc à la Sorbonne. Il rentre à la Sorbonne le 1er janvier 1841. Et le 24 août 1841, Ozanam épouse Amélie Soulacroix à Saint-Dizier, à l'église de Saint-Dizier de Lyon. L'église où est enterrée Pauline Jaricot. Donc si vous allez à Saint-Dizier à Lyon, vous verrez une plaque qui est indiquée qu'Ozanam s'est marié dans cette église. Ozanam donc retourne après. Alors, lors de leur lune de miel, ils font un voyage, ils vont en Italie. En même temps, Ozanam, non seulement c'est un voyage d'agrément, mais c'est aussi un voyage d'études. Il va vérifier sur place encore ses études qu'il doit faire pour la rentrée universitaire. Ils sont reçus par le pape. Ils sont reçus par le pape. Et puis, ils retournent à Paris. À Paris, ils prennent un appartement et Ozanam devient donc professeur suppléant à la Sorbonne. Mais la paye d'un suppléant à la Sorbonne, c'est pas grand-chose pour vivre, pour arriver à vivre correctement. Mais heureusement qu'il y a l'abbé Grétry, qui était le directeur de Stanislas, qui propose à Ozanam de s'occuper de la classe de rhétorique et le rémunérer. Et Ozanam donc va devenir professeur de rhétorique à Stanislas pendant quelques années. Donc ça lui fait les vacations à la Sorbonne et ça. Peut-être pour chance ou pour malheur pour le pauvre Fauriel meurt. Et Ozanam va se retrouver donc, on cherche un titulaire, et c'est Ozanam qui va devenir titulaire de la chaire de littérature comparée à l'âge de 30 ans. Mais malgré tout cela, ce qui se passe, c'est que Ozanam, alors bon, il a sa chaire, il est bien, mais il souffre de maladie. Ozanam, comme je vous disais, a toujours été très malade, puisqu'il va mourir d'une tuberculose osseuse. Et là, il souffre. Et il est obligé de s'arrêter de donner des cours pendant un an. Et la faculté donc l'envoie aux Aubonnes, justement, pour lui permettre de se faire une santé. Il retourne en France, après il va en Italie, puis il retourne en France, toujours pour faire ses études, il retourne en France, c'est la révolution de 48. Son état de santé va mieux, il rentre dans la garde nationale. Donc Ozanam rentre dans la garde nationale, et Ozanam a été l'un des petits du groupe qui ont demandé à Monseigneur Affre, qui était l'archevêque de Paris, d'aller sur les barricades justement pour arriver à concilier les deux parties opposées. Et une balle s'en va, une balle perdue, et Monseigneur Affre est atteint mortellement. Et alors là, pour la petite histoire, le corps de Monseigneur Affre, puisque c'était pas très loin de l'Hôtel Dieu, on va transporter immédiatement Monseigneur Affre à l'Hôtel Dieu pour les premiers soins, et il y a un interne qui se penche sur lui pour le soigner. Et cet interne, c'est Charles Ozanam, le petit frère d'Ozanam. Vous voyez que comme Ozanam a eu quand même des moments extraordinaires dans sa vie en fréquentant. Il a connu Victor Hugo, il a connu Alfred de Vigny, il a connu. Oui. Donc Ozanam, c'était quelqu'un qui n'était pas uniquement. C'était un intellectuel, c'était l'intellectuel du 19e siècle, un intellectuel que le monde n'a pas reconnu. Parce que moi, je me souviens quand je suis rentré à la Société de Saint-Vincent de Paul il y a 45 ans, on ne parlait jamais de Frédéric Ozanam. C'est un ancien président de Saint-Vincent-de-Paul, du conseil départemental, un certain Henri Ferrier, qui a mis Ozanam un petit peu en exergue, parce qu'on n'en parlait pas de Ozanam. Et même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de membres de Saint-Vincent-de-Paul qui ne le connaissent pas plus. Alors moi je me considère un petit peu comme le VRP de Frédéric Ozanam. Comme je l'aime beaucoup, ma femme, elle entend parler d'Ozanam toute la journée. Donc, comme je l'aime beaucoup, j'aime le faire connaître. Donc, Ozanam, donc il est professeur à la Sorbonne, malade, il repart. À ce moment-là, oui, c'est le moment des barricades, il va fonder un journal. Il va créer un journal avec l'abbé Marais et avec Lacordaire. Ils vont fonder un journal qui va s'appeler L'Ère Nouvelle. Ce journal, L'Ère Nouvelle, durera à peu près une petite année parce qu'il n'est pas suivi. À ce moment-là, il y a les élections législatives. Et ses amis lyonnais poussent Ozanam, inscrivent à ce qui se présente pour être député du Rhône. Donc Ozanam ne voulait pas faire de la politique. On l'inscrit, mais il n'attend qu'une chose, de ne pas être élu. Et en effet, il va obtenir 15 367 voix. Et il sera 33e sur la liste, donc il ne sera pas élu. Il sera bien content de ne pas être élu. Alors là, je n'ai pas le temps de vous en parler parce que ce serait trop long. Autrement, je vous aurais lu la déclaration qu'il avait faite à ses électeurs. Si tous les hommes politiques appliquaient la déclaration de Frédéric Ozanam, le monde s'en porterait mieux. Donc Ozanam ne sera pas député. La maladie d'Ozanam continue toujours à s'amplifier, tellement qu'il est obligé de partir. Il doit cesser ses cours à la Sorbonne, et avant que ses cours soient complètement terminés, qu'ils reprennent peut-être un jour, mais qu'Ozanam cesse d'enseigner, il y a ses étudiants qui commencent à rouspéter en disant, il fait comme tous les autres professeurs, alors les étudiants l'aimaient beaucoup, dès qu'il peut s'arrêter, il en profite. Et ça arrive aux oreilles d'Ozanam. Et Ozanam, ce jour-là, il est fiévreux, il est malade, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille, tout le monde lui déconseille de s'habiller et de sortir, il dit, reste couché. Il part à la Sorbonne. Il dit, puisqu'on dit que je me moque des étudiants, alors ce n'est pas vrai et je vais les voir. Et Ozanam est parti faire son dernier cours à la Sorbonne avec la fièvre. Il se traînait et voilà ce qu'il va dire à ses étudiants. Bien entendu, ça a été. Messieurs, on reproche à notre siècle d'être un siècle d'égoïsme général. Cependant, c'est ici que nous altérons nos santé. C'est ici que nous usons nos forces. Je ne m'en plains pas. Notre vie vous appartient. Nous vous la devons jusqu'au dernier souffle et vous l'aurez. Quant à moi, messieurs, si je meurs, ce sera à votre service. Bien entendu, l'amphithéâtre s'est levé pour l'applaudir. Et c'était son dernier cours. Alors, à partir de ce moment-là, on l'envoie en Italie. Donc, il va aller à Pise. Il va aller à Pise. Pendant ce temps, il continuait à faire ses recherches parce qu'il avait des moments d'accalmie, des moments où il était très mal, puis des moments où il ne pouvait pas assumer un cours régulièrement compte tenu de son état de santé. Donc l'université l'envoie donc faire des recherches en Italie puisque voilà, pour ses prochains cours, pour ses cours éventuels. Et là, il va à Pise. Et il a 40 ans. Et le 23 avril 1853, le jour de ses 40 ans, il va écrire la fameuse prière de Pise. Alors, faut que je vous la lise parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, vous verrez. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le testament de Pise. C'est le commencement du cantique d'Ézéchias. Je ne sais si Dieu permettra que je puisse m'en appliquer la fin. Je sais que j'accomplis aujourd'hui ma 40e année, plus que la moitié du chemin de la vie. Je sais que j'ai une femme jeune et bien aimée, une charmante enfant, d'excellents frères, une seconde mère, beaucoup d'amis. Une carrière honorable, des travaux conduits précisément au point où ils pourraient servir de fondement à un ouvrage longtemps rêvé. Voilà cependant que je suis pris d'un mal grave. opiniâtre, et d'autant plus dangereux qu'il cache probablement un épuisement complet. Faut-il donc quitter tous ces biens que vous-même, mon Dieu, vous m'aviez donnés? Ne voulez-vous pas, Seigneur, vous contenter d'une partie du sacrifice? Laquelle faut-il que je vous immole de mes affections déréglées? N'accepterez-vous point de l'holocauste de mon amour-propre littéraire, de mes ambitions académiques, de mes projets même d'études, où se mêlait peut-être plus d'orgueil que de zèle pour la vérité? Si je vendais la moitié de mes livres pour en donner le prix aux pauvres, et me bornant à remplir les devoirs de mon état, je consacrais le reste de ma vie à visiter les indigents, à instruire les apprentis et les soldats. Seigneur, seriez-vous satisfait, et me laisseriez-vous la douceur de vieillir auprès de ma femme et achever l'éducation de mon enfant? Peut-être non. Vous ne le voulez point. Vous n'acceptez pas ces offrandes intéressées. Vous rejetez mes holocaustes et mes sacrifices. C'est moi que vous demandez. Il est écrit au commencement du livre que je dois faire votre volonté, et j'ai dit « Je viens, Seigneur. Je viens si vous m'appelez, et je n'ai pas le droit de me plaindre. Vous m'avez donné 40 ans de vie. Si je repasse devant vous mes années avec amertume, c'est à cause des péchés dont je les ai souillés. Mais quand je considère les grâces dont vous les avez enrichies, je repasse mes années devant vous, Seigneur, avec reconnaissance. Quand vous m'enchaîneriez sur un lit pour les jours qui me restent à vivre, il ne suffirait pas à vous remercier des jours que j'ai vécus. Ah, si ces pages sont les dernières que j'écris, qu'elles soient un hymne à votre bonté. » En plus, Frédéric écrivait très bien. Il faut lire ses lettres, c'est un régal. Moi, je les ai pratiquement toutes. Elles ont été publiées en plusieurs volumes. C'est un régal. Donc, Hosanna est à Pise. Le mal continue à s'amplifier. Comme Pise, c'est une ville quand même brumeuse. Il s'en va du côté de Florence, en Toscane, dans un petit village qui s'appelle Lantignano. Il va rester un petit peu, quelques mois à Lantignano. Puis, comme c'est l'été, la maison est louée. On l'envoie dans un autre petit village qui s'appelle San Jacopo. Et de San Jacopo, il va rester jusqu'à la fin août 1853. Et à la fin août 1853, sa femme Amélie, qui est à ses côtés, et son frère, qui était venu, se rend compte que le mal empire. Et que donc, il devrait rentrer en France pour retourner à Paris, pour ne pas mourir en Italie. Et donc, que se passe-t-il? On le ramène, il s'embarque à Livourne, et il arrive à Marseille. Alors, il faut savoir là que la belle-mère d'Hosanna, Madame Sous-la-Croix, était née Manganosque et qu'elle était marseillaise. Elle avait une propriété, les parents avaient une propriété dans le quartier de Saint-Loup, à Marseille. Et donc, Hosanna revient à Marseille, justement, pour remettre sa femme entre les mains de sa famille d'origine, puisqu'il savait qu'il allait partir. Et arrivé à Marseille, il est logé dans un hôtel meublé, qui s'appelait, c'est le au 9 rue Mazade. Alors la rue Mazade, c'est devenu maintenant la rue Montgrand. Donc, c'est du côté de la préfecture. Si vous allez à Marseille, rue Montgrand, vous avez au numéro 9 un immeuble où les confrères de l'époque avaient fait mettre une plaque en disant que c'était là où est mort Frédéric Hosanna en 1853. Frédéric Hosanna va donc arriver début septembre, 1er septembre, et là, les confrères de Saint-Vincent-de-Paul de Marseille vont aller le voir dans sa chambre, là où il se trouve, il y a son frère, et il va venir son confesseur qui est l'abbé Pinatel. Alors l'abbé Pinatel lui pose la question, lui dit « Mon fils, voilà, vous allez maintenant comparaître devant le Seigneur, est-ce que vous n'avez pas peur ?» Et Hosanna de lui dire « Pourquoi le craindrais-je? Je l'aime tant. » Ça a été pratiquement les dernières paroles d'Hosanna. Les dernières paroles d'Hosanna, ça a été « mon Dieu, ayez pitié de moi. » Et Hosanna est mort le 8 septembre 1800. 53 à le soir à 19h40, entouré de sa femme, de sa famille, mais aussi des confrères de Saint-Vincent-de-Paul qui priaient à côté. Et trois jours après, un service religieux a eu lieu à Marseille, avant que la dépouille d'Hosanna s'en aille. Alors le premier service religieux qui a été célébré pour Hosanna s'est déroulé à l'église Saint-Charles qui se trouve à côté du palais de justice rue Grignat, un peu plus haut. Et pendant que on célébrait l'office des morts pour Hosanna, Monseigneur de Mazenod posait la première pierre de Notre-Dame de la Garde, le jour même. Donc vous voyez cette vie cette vie dans un homme qui a été une vie bien remplie, une vie de 40 ans, mais une vie bien remplie, puisqu'il y a d'autres facettes dans un homme. Mais comme il est déjà 21h, j'ai peur de vous garder trop. Donc voilà, Hosanna, parce que je pourrais vous parler aussi d'Hosanna, de ses ouvrages, de ses réflexions, de ses lettres, vous lire quelques lettres, vous voyez, qui sont très belles, notamment les lettres des fiançailles, la première lettre des fiançailles, qui est très comique, qui est très agréable. Mais tout cela, ça prend énormément de temps.
Alors, ils peuvent, pendant les questions,